Bonjour à tout le monde. Reportez-vous, s'il vous plaît, à un passage dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. C'est un passage qui est plutôt étonnant, sur lequel on s'est tous posé des questions et sur lequel on a encore régulièrement des questions des nouvelles personnes qui arrivent avec nous, mais même des anciens aussi qui veulent approfondir le sujet. C'est un thème important. Le titre de mon sermon aujourd'hui, la grande apostasie finale. L'apôtre Paul, dans ce passage-là, indique clairement qu'au temps de la fin, juste avant le retour de Christ, il va se passer 2 événements mondiaux majeurs, juste avant le retour de Christ. Premièrement, un rejet total du vrai Dieu des cieux et de la vérité biblique fondamentale. Première chose. Deuxième chose, l'entrée en scène d'un imposant personnage religieux très charismatique que la Bible appelle le faux prophète. Alors, regardons ce que dit 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, verset 3. Et je vous suggère de mettre un signet dans votre Bible, un petit papier, pour revenir facilement à ce passage-là, parce qu'on va s'y référer au cours du sermon. Alors, verset 3, Paul dit ceci pour avertir les chrétiens de ne pas se laisser tromper par quoi que ce soit. Et il indique exactement ce qui va se passer juste avant le retour de Christ. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Certaines versions vont dire l'homme du péché. C'est le faux prophète, celui qui rejette vraiment la loi de Dieu, le fils de la perdition. Notre ancienne organisation, l'Église universelle de Dieu, a vécu une apostasie dans les années 90 sous la direction de M. Joseph W. Picache. Et cette Église a fini à ce moment-là par rejeter, par abandonner les doctrines bibliques de base du vrai christianisme. Ils ont rejeté le sabbat, ils ont rejeté les fêtes de Dieu, ils ont réintroduit les anciennes doctrines du monde, des fausses églises comme la Trinité et ces choses-là. Ils ont réintroduit les fêtes païennes et ils sont retournés de façon générale dans le protestantisme. Heureusement, le Christ avait dit que sa petite église ne serait jamais détruite. Il y a un petit noyau des véritables serviteurs de Dieu qui se sont réunis autour de M. Meredith, Roderick Meredith, un évangéliste ordonné par M. Armstrong dans le temps. Et ils ont continué l'œuvre d'annoncer l'Évangile. Mais après l'implosion de l'Église universelle de Dieu, il y a plusieurs petits groupes qui en sont sortis et qui ont formé des petites églises avec toutes sortes d'idées souvent erronées et non bibliques. Et c'est le cas en ce qui concerne le passage dont je vous parle aujourd'hui, 2 Thessaloniciens 2 et le verset 3. Certains ont dit, par exemple, que cette apostasie-là ne pouvait arriver que dans l'Église de Dieu, que ça ne pouvait pas arriver aux protestants, ni aux catholiques, ni aux autres groupes d'allégeance chrétienne, parce que selon eux, ils avaient déjà quitté la vérité. Mais leur raisonnement n'est pas exact, vous allez voir. Il y a un autre groupe qui enseigne qu'il s'agit uniquement là d'un événement passé, c'est pas futur. Alors que c'est un événement futur, que ça doit arriver juste avant le retour de Christ. Troisièmement, il y en a d'autres parmi ces petits groupes-là qui pensent que l'apostasie dont Paul parle dans le verset qu'on parle maintenant, c'est justement celle qui serait arrivée dans les années 90 dans l'Église universelle de Dieu sous Joseph Tikache et que M. Tikache aurait été l'homme du péché, l'impie, le grand faux prophète. Mais c'est faux et c'est facilement démontrable parce que M. Tikache n'a fait aucun prodige ni aucun miracle, alors que le grand faux prophète au temps de la fin va faire des grands prodiges, de sorte que toute la terre sera en admiration, on verra ça tantôt. Et pourquoi c'est pas exact? C'est aussi par le fait que cet événement-là, l'apostasie, la petite apostasie, je devrais dire, qui est arrivée dans l'Église universelle de Dieu à l'époque, ça fait plus de 30 ans que ça s'est produit. Donc, ce n'est pas juste avant le retour du Christ. L'apostasie dont Paul parle, elle est immense. Elle est mondiale. C'est un mensonge mondial qui sera répandu et cru. Et ce sera juste avant le retour de Christ. Et ça impliquera beaucoup plus qu'une toute petite église. Remontons un petit peu dans l'histoire. Dieu a appelé M. Herbert W. Armstrong, qui a été pasteur général de l'Église universelle de Dieu pendant plusieurs dizaines d'années. Et on sait, l'histoire le prouve, que Dieu a révélé par M. Armstrong plusieurs vérités bibliques et qu'il a donné à ce serviteur-là de comprendre des choses fantastiques que l'on comprend encore aujourd'hui grâce à son enseignement et qu'on peut vérifier. Parce que Dieu révèle à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Alors, M. Armstrong a expliqué clairement le passage de 2 Thessaloniciens 2, verset 3, dont on parle aujourd'hui. Et la position de la vraie Église de Dieu à ce sujet-là, elle n'a jamais changé. Je vous cite ici une lettre couvrière que M. Armstrong a écrite il y a très longtemps, le 11 novembre 1949. Il disait ceci. Le Christ a prophétisé une apostasie de son message, c'est-à-dire un rejet de son message. Paul a confirmé qu'il y aurait abandon du message de Jésus, comme on voit ici. Les églises populaires vont se détourner de la vérité pour s'attacher à des fables. Les églises populaires, c'est-à-dire un événement considérable qui va englober l'ensemble des églises du monde. M. Armstrong en a parlé encore dans son article « Plain Truth About Easter » qui a été publié en 1973 et qui avait été publié auparavant en 1957. On peut retrouver ça dans ses écrits. Il disait ceci. « Jésus et les apôtres ont annoncé un grand abandon de la vérité de la part de la vaste majorité des gens. » Voyez-vous, ce n'est pas un petit événement qui concerne un petit groupe de personnes. Une apostasie populaire universelle de la foi. Donc, la vraie foi va disparaître. Il va rester seulement un petit groupe qui aura la vraie foi et dont Dieu va s'occuper de façon particulière. Alors, voyez-vous, l'apostasie dont Paul parle, cette grande apostasie, ça ne touche pas seulement le petit troupeau de Dieu, l'Église de Dieu. D'ailleurs, on ne s'y reportera pas, mais Apocalypse 12, verset 9. Affirme que Satan a séduit toute la terre de toutes sortes de façons. Il a inventé à travers les humains toutes sortes de religions imaginables. Il a séduit toute la terre. Et ce sera spécialement vrai, surtout lors de sa dernière grande manœuvre pour séduire le monde juste avant le retour du Christ. Ce sera énorme, plus que dans l'histoire. Et cette apostasie-là va atteindre son point culminant à la toute fin, juste avant le retour du Christ. Le sermon que je vous donne aujourd'hui, j'en ai tiré l'essentiel d'un message qui m'a frappé de la part du docteur Douglas Winnail. Ce message-là a pour titre « The Falling Away ».« The Falling Away ». Il a été présenté il y a quelques années. On peut le retrouver sur nos sites Internet ou sur YouTube. Ceux qui comprennent l'anglais, vous pourrez aller voir et puis compléter la recherche que je vous présente aujourd'hui. Je reviens à M. Armstrong. Dans une émission radiophonique en 1982, M. Armstrong disait encore « L'apostasie n'impliquera pas un petit nombre de personnes. Le monde entier sera séduit. Selon la Bible, cet événement reste à venir. » Et c'est encore le cas aujourd'hui pour nous, parce que ça doit arriver juste avant le retour de Christ. D'ailleurs, ça a été confirmé par notre vieil évangéliste qui est toujours là, M. Richard Ames, qui a confirmé la même chose en disant qu'il s'agit d'un phénomène universel qui doit se produire dans les derniers jours. Alors, il y aura une apostasie accompagnée d'une action intense d'un faux prophète, du grand faux prophète qui est annoncé. Et ça, ça va se passer en même temps, au même moment. Certains encore là se trompent en prétendant que c'est deux événements séparés dans le temps. Non, ces deux événements-là vont arriver en même temps dans le temps. Et l'apôtre Paul nous dit bien à différents endroits de prouver toute chose. Et c'est pour ça que je vous donne le message aujourd'hui, pour qu'on se fonde sur ce que la Bible dit, sur ce que l'histoire nous montre et ce que la prophétie annonce, pour qu'on soit solide quand ces choses-là vont arriver. Maintenant, pour comprendre davantage, regardons les définitions possibles du mot « apostasie ». Si vous allez dans une concordance, par exemple la concordance de Strong, Strong définit le mot « apostasie » en ce sens. Une désertion, s'en aller de, une rébellion contre quelque chose, le fait d'abandonner quelque chose. Si vous allez, par exemple, dans le dictionnaire biblique illustré Holman, H-O-L-M-A-N, c'est défini, l'apostasie, comme étant un acte de rébellion, le fait d'abandonner ce en quoi on a cru. Alors, voyez-vous, ça touche le même sens. Maintenant, juste pour aller plus loin, on va regarder comment certaines versions françaises de la Bible présentent ce mot-là. Nous, dans la version Louis II, qu'on vient de lire, c'est écrit « Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant ». Si vous allez, par exemple, dans la version Osterwald, ça dit « Il faut que la révolte soit arrivée auparavant ». Alors, voyez-vous, on parle d'une révolte. Ça, c'est contre quelque chose, contre quelqu'un. Cette grande révolte-là sera contre le grand Dieu des cieux. Si vous allez dans la version français courant, ça dit « Car il faut que la révolte finale soit arrivée auparavant ». Voyez-vous, une dernière grande révolte. Si vous allez dans la version parole vivante, ça dit « Il faut que la grande rébellion finale soit arrivée auparavant ». Alors, voyez-vous, tout ça indique l'atmosphère de la situation et ce qui doit se produire. Maintenant, pour aller plus loin, je vais citer un article qui a été publié en 2013 dans notre revue Le Monde de demain, sous la plume de M. Roderick Meredith. Le titre, c'est « Aux portes d'une révolte gigantesque ».« Aux portes d'une révolte gigantesque ». Et je vous encourage fortement à retrouver cet article-là et de prendre le temps de l'étudier à la lumière de ce que je vous dis aujourd'hui pour aller plus loin et fortifier encore votre fondement dans la foi et dans ce que Dieu veut que nous sachions d'avance avant que ça se produise. Alors, cet article-là, aux portes d'une révolte gigantesque. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut savoir. Il faut être prêt mentalement et spirituellement. Alors, voici ce que M. Meredith mentionne dans cet article-là. Cette révolte dont je vous parle, prophétisée, rejettera presque chaque vestige du christianisme, donc de la vérité biblique, pour encourager ensuite un retour à la religion. Toute la base du vrai christianisme sera niée, rejetée, et on va mettre une autre forme de religion se prétendant chrétienne au-dessus de tout ça. Je reprends, c'est important. Cette révolte prophétisée rejettera presque chaque vestige du christianisme pour encourager ensuite un retour à la religion. Et j'ajouterai sous un faux sauveur religieux, avec l'adoration d'une puissante figure mystérieuse qui se proclamera, comme on le verra tantôt, le dieu d'un système religieux qui séduira le monde entier. Et M. Meredith continue en disant, êtes-vous prêt à une telle chose? Préparez-vous. Comprenez bien ce que la Bible dit et soyez prêt. Il y aura donc une religion d'apparence chrétienne, mais qui n'aura pratiquement rien de la vérité biblique fondamentale. C'est ça qui s'en vient. Et on le voit commencer à se développer encore de plus en plus rapidement. Je continue la citation de M. Meredith. Nous sommes forcés de constater qu'à peu près chaque vestige du véritable christianisme biblique est attaqué. Et cette attitude s'amplifiera jusqu'au déclenchement d'une rébellion massive contre le Dieu de la Bible. C'est très clair. Ça a été annoncé en 2013, là, et on le voit s'accomplir de plus en plus. Nous le voyons. On voit cette tendance prendre de la force dans nos nations et sur la face de la terre en général. Il y a même certains commentaires bibliques, c'est intéressant de voir. Il y a certains commentaires bibliques qui décrivent cette apostasie de 2 Thessaloniciens 2-3 avec une certaine justesse, même si ce n'est pas inspiré par Dieu. Mais en analysant la Bible, ils mettent ensemble les morceaux du casse-tête et ils comprennent un peu ce qui s'en vient. Regardez ce que Expositor's Bible Commentary déclare. Deux phénomènes remarquables domineront la première phase du jour du Seigneur, apostasie et apparition de l'impie. L'apostasie, une rébellion, désigne un abandon délibéré d'une ancienne position ou d'une ancienne croyance. Ce sont les conditions pour que les gens, spécialement ceux qui se disent chrétiens, se détournent de Dieu. Voyez-vous? Ce mouvement mondial anti-Dieu sera si étendu qu'il se méritera l'appellation l'apostasie, et non pas une apostasie, mais l'apostasie, sous-entendu la grande ou la plus grande apostasie. Je continue. La présence d'une telle apostasie et d'un Dieu de contrefaçon n'échappera pas à l'observation internationale. Ce sera connu internationalement et ça affectera l'ensemble de la planète. Et c'est pour ça que Paul insiste en disant aux chrétiens, ne soyez pas séduits. Soyez proches de Dieu. Étudiez la Bible chaque jour. Restez proches de Dieu. Soyez solidement fondés pour ne pas être surpris, pour ne pas être déstabilisés quand quelque chose d'aussi gros, avec un impact aussi grand sur toute la planète, va se produire. Cette apostasie sera énorme. Elle sera des plus impressionnantes. Ce n'est pas l'apostasie dans une toute petite église. C'est une apostasie mondiale. Allez maintenant à Apocalypse chapitre 13. Et là aussi, je vous inviterai à mettre un petit papier ou un signet dans cette page-là aussi, parce qu'on reviendra à l'occasion. Ce sera plus facile pour vous. Alors, allez à Apocalypse chapitre 13. Alors, juste avant le retour du Christ, donc, il y a deux choses précises qui doivent se produire. Et ces deux choses-là sont simultanés et sont reliés, comme on va voir. Et ça va impliquer deux personnages clés qui vont jouer un rôle concernant toute la planète. La Bible en parle comme de deux bêtes. La première bête, c'est un puissant dictateur européen, comme Hitler, mais beaucoup plus puissant qu'Hitler et beaucoup plus efficace aussi, comme on verra. Et là-dessus, je vous donne tout de suite une autre partie de l'article de M. Meredith que je vous ai mentionné tantôt sur la grande révolte qui s'en vient. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler, qui était un précurseur de ce dictateur final, donc un symbole, si vous voulez, ou un représentant du dernier dictateur de l'Empire romain qui paraîtra bientôt, mais qui sera beaucoup plus puissant qu'Hitler. Donc, lors de la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler, qui était un précurseur de ce dictateur final, n'a pas été capable de manipuler ni de mettre la pression sur les autres dirigeants européens pour obtenir leur soumission. Au contraire, c'est par la force que la puissante armée d'Adolf Hitler a vaincu ces nations en déferlant sur l'Europe. C'est ce qui s'est passé. Mais au temps de la fin, M. Meredith précise, mais au temps de la fin, par des manœuvres politiques ou plus probablement sous la pression financière, ces dirigeants européens, dont les nations appartenaient jadis à l'Empire romain, donneront leur puissance et leur autorité à cette bête qui s'élèvera bientôt. L'Empire romain reconstitué une dernière fois sous un dictateur puissant qui va faire la pluie et le beau temps à la grandeur de la planète. Et regardez comment c'est fascinant. C'est en 2013 que M. Meredith a écrit ça et il dit que ce sera possiblement sous des pressions financières que cette union des 10 nations ou groupes de nations du temps de la fin va se faire. Et regardez ce qui vient de se produire à partir de 2019-2020 avec COVID-19. Ça a créé tellement de problèmes que il y a et il y aura des répercussions financières énormes. Les pays sont rendus dans un endettement épouvantable. Et la situation économique pour chacun est rendue intenable. Et M. Meredith avait dit, c'est possiblement sous une pression financière que ces 10-là vont aussi venir ensemble pour donner leur pouvoir à un grand dictateur qui va mener la barque. Dieu révèle à ses serviteurs d'avance les choses qui s'en viennent. Alors, je reviens à ça. Donc, il y aura deux personnages clés que la Bible appelle des bêtes, deux bêtes. Une première bête, un puissant dictateur européen, et la deuxième bête, un puissant chef religieux. Et ils vont collaborer étroitement. On le voit très bien dans Apocalypse 13, verset 12, où il est question ici de la deuxième bête, c'est-à-dire du faux prophète, du grand chef religieux. Elle, cette deuxième bête-là, exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle travaillait avec. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, à donner leur allégeance et leur admiration et leur adoration à cet empereur qui va diriger du point de vue militaire et politique, alors que le faux prophète va collaborer avec lui. Alors, le dictateur européen et le faux prophète seront directement aussi, ça faut le noter, c'est pour ça qu'ils auront un succès fantastique. Ils seront inspirés et soutenus directement par Satan. Et comme c'est la dernière grande manifestation pour étendre le mensonge à toute la planète, Satan va mettre le paquet. Et c'est pour ça que ça aura tant de succès. Maintenant, je vais un petit peu plus loin pour qu'on comprenne bien de qui il s'agit et qu'est-ce qui va se passer. On va parler un petit peu de l'impie, du faux prophète. De l'homme du péché. Ça, c'est l'antéchrist. On a une émission, d'ailleurs, sur l'antéchrist, qui est révélatrice. 2 Thessaloniciens 2, le verset que je vous ai mentionné. Allons maintenant au verset 4, où on parle maintenant de cet impie, de ce faux prophète. Il est, verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Voyez-vous, il va s'élever au-dessus de tout ça. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Ça va se réaliser. Et plusieurs d'entre nous seront témoins de ça. Parce que ces choses-là ne devraient pas tarder à se réaliser. Il dit, il va s'asseoir dans le temple de Dieu. C'est qu'il va aller à Jérusalem. Il n'y aura probablement pas de temple de Dieu à ce moment-là. Ça va se faire très, très vite, mais je ne crois pas. Il n'y aura sans doute pas de temple de Dieu physique à ce moment-là. Mais, ce qu'il faut savoir pour comprendre la prophétie, c'est que la Bible déclare clairement que la ville de Jérusalem, c'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. Alors voyez-vous, il s'agira que ce faux prophète aille s'établir à Jérusalem pour être assis dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu. Vous irez entre autres voir dans Esdras 3 et le verset 8, où on dit clairement que la ville de Jérusalem, c'est la maison de Dieu. Alors, ce faux prophète-là va aller s'asseoir dans le temple de Dieu. Et là, il va, comme c'est marqué dans le verset 4 de 2 Thessaloniciens 2, il va se proclamer Dieu lui-même. Pas étonnant, parce que le pape a déjà ce titre-là, si vous y pensez bien, parce qu'il porte le titre de vicaire du Christ. Qu'est-ce que veut dire le mot vicaire? Vicaire veut dire remplaçant. Déjà, il porte le titre de remplaçant du Christ, donc celui qui prend la place du Christ. Alors, c'est pas surprenant qu'il se proclamera lui-même Dieu. D'ailleurs, si vous regardez comme il faut, cet homme-là se fait appeler Saint-Père, le Saint-Père, alors que ce titre-là appartient exclusivement au gouverneur de l'univers, qui est le Saint-Père, le Père Saint, le Père du Christ et le Père de la famille qu'il est en train de se développer. Il n'y a pas un homme qui peut s'arroger ce titre-là, mais ça donne des indications. Et ce faux prophète-là va faire des prodiges extraordinaires. C'est pas surprenant que la Terre va le suivre et va le suivre dans son invitation à suivre le dictateur politico-militaire, Allez dans Apocalypse 13. On va lire le verset 13 et 14. Verset 13. Ce faux prophète opérait de grands prodiges, cette deuxième bête, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Imaginez la réaction de la planète quand tout ça va être rendu manifeste sur les réseaux sociaux, que cet homme-là aura accompli un prodige extraordinaire par la puissance de Satan, mais ce sera attribué à sa puissance. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, en présence de la première bête, du dictateur de l'Empire romain. Et là, je reviens à l'article de M. Meredith qui en parle. Il dit ceci. Ces deux personnages deviendront si puissants et si influents que des milliers de ministres des grandes religions du monde se joindront à eux avec leurs fidèles. Ils seront séduits par la plus grande supercherie que le monde ait jamais connue. Fantastique que M. Meredith a été inspiré d'annoncer ça il y a plusieurs années, et nous, on le voit se préparer, et ça confirme les passages bibliques qu'on a vus. Et ces deux grands personnages-là, l'empereur de cet empire romain ressuscité et le grand faux prophète, vont s'élever, vont se glorifier chacun et vont blasphémer Dieu tous les deux. Même mentalité, pourquoi? Parce qu'ils sont inspirés par le même adversaire de Dieu, par Satan, qui va mettre tout le paquet. Ils vont s'élever eux-mêmes et ils vont blasphémer Dieu. Ça, on le voit, pas besoin de vous y reporter. Je vais vous citer Daniel 11, verset 36. Notez simplement la référence, vous lirez plus tard. Daniel 11, verset 36, en parlant du dictateur en question, « Le roi, ce dictateur-là, fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, voyez-vous, il va s'élever. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. » Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des cieux. Ce sera puissant, ce sera fort. Et l'humanité sera témoin de ces choses-là. Et ça va renforcer son rôle et renforcer le rôle du faux prophète. Maintenant, allez un peu plus loin, Apocalypse 13. Vous êtes déjà dans Apocalypse. On va lire les versets 5 à 8, où on décrit ce que ce dictateur-là va faire contre Dieu et contre le peuple de Dieu. Verset 5, Apocalypse 13. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il sera inspiré par l'adversaire. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 3 années et demie, la grande détresse. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné à cette bête de faire la guerre aux saints. Oui, parce que c'est une bête politique et militaire en même temps. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ce n'est pas peu de chose. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Il y a seulement un petit groupe, ceux qui auront reçu l'Esprit de Dieu et dont le nom aura été inscrit dans le livre de vie de l'agneau et qui auront resté fidèles, qui auront tenu bon avec l'aide de Dieu jusqu'au bout, ceux-là ne seront pas victimes de cette supercherie-là. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et le faux prophète va faire exactement la même chose. Comme le dictateur, le faux prophète va blasphémer contre Dieu. N'y allez pas, mais je vous cite Daniel 7, verset 25. Notez simplement la référence. Daniel 7, 25. Il, le faux prophète, prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. D'ailleurs, il a déjà commencé. Parce qu'il a déjà changé le sabbat en dimanche. Il a changé l'observation du jour saint de Dieu en adoration du jour du soleil, Sunday. Il a déjà commencé à changer la loi et les temps. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps, pendant 3 années et demie. Le temps où l'empereur, le grand dictateur, va mener les choses avec ses armées. Et ce qui va arriver, c'est la même chose qui est arrivée au Moyen-Âge, dans le temps de l'Inquisition, c'est que ce ne sera pas cette grande fausse église qui va tuer elle-même les gens, mais ce sera son bras militaire, c'est-à-dire l'Empire romain, sous ce grand dictateur. Et cette grande apostasie finale, se prétendant chrétienne, va réussir pour un temps, parce que Dieu a déterminé à quel moment ce sera terminé. Et quand ce sera terminé, ça ne pourra pas aller plus loin. Le Christ va revenir, va intervenir et va mettre un terme à la folie humaine. Alors, voyez-vous, c'est vraiment essentiel de savoir d'avance ces choses-là pour être solide quand ça va arriver. Nos nations israélites ont déjà emprunté le chemin de l'apostasie, ont déjà abandonné grandement les valeurs divines et continuent de le faire. Je vous donne un exemple sur la façon dont ça peut se présenter. L'exemple des États-Unis. L'exemple des États-Unis, il est frappant dans ce sens-là, quand on voit leur histoire. Écoutez, les États-Unis ont été fondés par des hommes qui étaient majoritairement chrétiens et qui basaient leur approche et les institutions du pays sur les valeurs bibliques. Par exemple, un des premiers présidents américains, James Madison, disait que la gouvernance personnelle, comme la gouvernance des nations, doit être fondée sur les principes moraux des 10 commandements. Vous ne voyez pas de président américain qui parle comme ça aujourd'hui, hein? Mais ça, c'est la source. L'histoire des États-Unis a commencé avec ce fondement-là. Ça a changé graduellement, et là, c'est en train de changer beaucoup plus rapidement. Je vous donne un exemple de ce que c'était au début. En 1636, l'université Harvard a été fondée. Et vous savez, le guide étudiant qui était donné à chacun de ceux qui allaient à l'université disait ceci, que chaque étudiant considère que le but de sa vie et de ses études, c'est de connaître Dieu et Jésus-Christ. Ça semble impensable aujourd'hui, hein? Ça, c'était le manuel de base des étudiants de l'université Harvard aux États-Unis en 1636. Allons un peu plus loin dans l'histoire. 1782, le Congrès américain a recommandé et approuvé l'usage de la Bible dans toutes les écoles. Parce que la religion du pays, c'était la religion chrétienne basée sur la Bible. Écoutez, les choses ont pas mal changé depuis ce temps-là. Je vous donne une histoire plus récente, là, des changements dans les États-Unis. Ça a été la même chose dans les autres nations israélites, remarquez bien. Et ça va de plus en plus vite. Écoutez, c'est comme un gros caillou là qui commence à rouler en bas d'une montagne. Au début, il roule à une certaine vitesse, mais plus il avance, plus il prend de la vélocité, plus il prend de l'accélération. Aux États-Unis, en 1963, les prières et la lecture de Bible ont été bannies des écoles. 1963. 1980, par une loi, il a été défendu désormais d'afficher les 10 commandements dans des endroits publics. Un pays qui était fondé sur les 10 commandements, comme on a vu tantôt. Ça, c'est en 1980. 2010, il y a des étudiants qui ont été renvoyés des écoles et des professeurs qui ont été congédiés pour avoir cité la Bible en classe ou pour avoir apporté une copie de la Bible en classe. C'est là qu'on est rendu. Quand je vous parle d'une détérioration d'un effacement de la vérité, d'un rejet de la vérité de base. Vous avez même eu un récent président aux États-Unis, le président Obama, qui a déclaré ceci. Vous en rappellerez peut-être. « Quoi que nous ayons été, désormais nous ne sommes plus une nation de chrétiens. Nous sommes aussi une nation de juifs, de musulmans, de bouddhistes et d'hindous. Une nation de non-croyants. » Voyez-vous, on voit comment l'histoire s'est développée de plus en plus vite pour un rejet total de Dieu. Il y a un livre qui a été publié en 2004 sous la plume de M. Schmitt qui s'appelle « How Christianity Changed the World ». Et je vous résume en gros l'essentiel de ce volume-là qui va dans le sens de ce que je vous dis aujourd'hui. Au cours des 50 dernières années, il y y a un mouvement qui s'est développé pour éliminer l'héritage chrétien. Je donne des exemples. Pour redéfinir le mariage, par exemple. Que le mariage ne doit plus être réservé simplement entre un homme et une femme. Pour faire la promotion du mariage entre gens de même sexe. Pour faire la promotion de l'homosexualité comme étant un style de vie alternatif au choix. Alors, voyez-vous, ça rejette les valeurs fondamentales bibliques qui sont vraiment inscrites clairement dans la Bible. Ce mouvement-là vise à éliminer l'héritage chrétien. Et il est en marche. Et ça va plus loin parce que ce mouvement-là, comme ce monsieur Schmitt écrit dans son livre, tend même actuellement à criminaliser la pratique du christianisme. Donc, quelqu'un qui met en pratique le christianisme pourra et peut même actuellement être amené devant les tribunaux, poursuivi en justice. Je vous donne des exemples dans deux autres pays israélites que les États-Unis, même où c'est le même phénomène qui se passe, le même scénario. L'Angleterre et la Finlande. Ça a apparu dans notre nouvelle et prophétie du 13 mai 2021, dans le petit rapport que l'Église fait chaque semaine. Ça a été publié dans African Mag le 5 mai 2021. Je cite. Récemment, à Londres, un prédicateur de 71 ans a été arrêté, menotté et emprisonné pour avoir prêché publiquement, à partir du livre de la Genèse, que le mariage doit être entre un homme et une femme. Il a été arrêté et emprisonné dernièrement. Je vais plus loin. Toujours en Angleterre, l'aumônier d'une école chrétienne a été signalé à une agence gouvernementale de lutte contre le terrorisme comme étant un extrémiste religieux potentiellement violent et renvoyé pour avoir prêché un sermon informant les étudiants qu'ils pouvaient être en désaccord avec les nouvelles politiques LGBT qui étaient contraires à leurs croyances. Ça a été publié dans christianconcern.com le 9 mai 21. Et je vais du côté de la Finlande, qui est un autre pays israélite. Il y a une politicienne de premier plan, qui est également médecin et mère de famille aussi, qui risque actuellement d'être emprisonnée pour avoir exprimé son point de vue biblique sur le mariage et sur l'homosexualité. Et ça a été publié sur evangelique.info le 13 mai 2021. Alors voyez-vous que l'Occident, le monde occidental, n'est pas entré seulement dans une phase post-chrétienne, mais est entré dans une ère anti-chrétienne. Absolument. C'est là qu'on est rendu. Et croire en la Bible, ça devient un crime. On est rendu loin. La vérité a disparu et la vérité disparaît de la place publique. Et ceux qui veulent la pratiquer deviennent des cibles comme étant différents de la société et non acceptables par la société qui se sépare de Dieu de plus en plus. L'apostasie prophétisée sera un mouvement mondial anti-Dieu ou anti-vrai Dieu. On va parler de Dieu, mais pas du vrai Dieu. Et ce mouvement-là est moussé par les activités concertées du dictateur européen et du faux prophète, qui seront guidés et soutenus par Satan. Dieu le permet. Ça fait partie de son plan. Dieu avait dit à l'humanité, faites vos religions, faites vos choix, bâtissez vos systèmes d'éducation, vos systèmes économiques. Vous allez voir que sans moi, ça va aller simplement de désastre en désastre. Et si je n'intervenais pas, à la fin, vous vous détruiriez tous. Et c'est ce que Dieu va faire. Il va intervenir, mais à la toute fin. Là, pour le moment, il laisse aller les choses. Alors, cette grande apostasie dont je vous parle aujourd'hui, elle séduira le monde entier et va pousser le monde à rejeter les fondements du christianisme de la Bible. Bien sûr, comme je mentionnais, ils vont sans doute parler de Dieu. Ils vont utiliser son nom. Et ils vont parler de Jésus-Christ, ils vont parler au sujet de la Bible, mais sans être en accord avec la Bible. Ils sont en désaccord avec la Bible, sans enseigner ce que le Christ a enseigné. Ce sera une fausse religion de façade, mais qui sera séduisante. Un événement colossal. Absolument. C'est ce qui s'en vient. Il faut s'attendre à des choses énormes. Faut se préparer. Et c'est pour ça que je vous invite à lire l'article que M. Meredith a écrit aux portes d'une révolte gigantesque et d'aller écouter aussi, ceux qui comprennent l'anglais, le sermon de M. Winnell dont je m'inspire aujourd'hui, de Falling Away. Ça vaut vraiment la peine. Vous allez pouvoir compléter ce que je vous mentionne aujourd'hui et asseoir encore vos convictions sur une base encore plus solide, parce que M. Winnell donne encore beaucoup plus de détails que moi je peux donner aujourd'hui dans un court sermon pour vous amener à voir où on est rendu dans le temps. Faites-le, c'est important. Au temps où on est rendu, là, on ne peut pas être trop fort. On ne pourra pas être trop fort pour affronter la tempête qui vient. Il y a une tempête parfaite. M. Weston a parlé de ça, une tempête parfaite. Il a écrit là-dessus dernièrement. Il y a une tempête parfaite qui approche, à différents égards. Au point de vue sociétal, au point de vue de la société, au point de vue économique, et par-dessus tout ça, au point de vue religieux, de sorte que l'humanité va se dissocier complètement de Dieu. Elle sera coupée totalement du vrai Dieu. Elle en parlera beaucoup, elle fera beaucoup de choses en ce qui concerne ça, mais des choses contraires à Dieu, en rejetant au fond le vrai Dieu. Et les conséquences de ça seront considérables et horribles. Mais nous qui sommes appelés maintenant, faut voir le privilège que ça nous donne et en même temps la responsabilité. La bénédiction qu'on a de connaître d'avance ces choses-là, que Dieu a révélées à ses serviteurs. À M. Armstrong, il y a de nombreuses années, et la position d'Église, elle est la même, comme je vous ai dit. Et ensuite, M. Meredith a enseigné exactement les mêmes choses. Et là, on voit M. Gerald Weston, qui est en charge de l'Église du Dieu vivant, enseigner exactement les mêmes choses avec Dr. Winnell, avec M. Ames et les autres dans l'Église, parce que les fondements n'ont jamais changé. La vérité biblique, elle reste toujours la même. Et si nous la connaissons, c'est parce que ça nous a été donné. C'est une richesse extraordinaire. Il faut l'apprécier. Il faut le dire à Dieu. Il faut continuer à l'approfondir, à se nourrir de cette parole-là chaque jour, pour qu'elle devienne nous, pour qu'on en devienne de plus en plus convaincus. Qu'est-ce qui est écrit dans Romains? D'où vient la foi? C'est écrit dans l'Épître aux Romains, sous la plume de Paul, que la foi, elle vient de ce qu'on entend, ce que vous entendez aujourd'hui, ce que j'ai entendu de M. Winnell, ce que j'ai entendu autrefois de M. Armstrong. J'ai eu l'occasion avec mon épouse de le rencontrer déjà. Alors il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'où? Elle vient de la parole de Dieu. Alors, faut vérifier que la parole de Dieu est bel et bien celle qui est prêchée et faut s'y attacher. Et si on s'y attache et qu'on s'attache à mettre en pratique ce que Dieu nous montre, on sera prêt pour affronter la parfaite tempête qui approche. C'est ça. Et c'est pourquoi je vous donne ce message aujourd'hui qui a une telle importance. Pour qu'on soit conscient que ce qui vient est énorme. Si on pense avoir vu ou avoir lu des choses extraordinaire jusqu'à maintenant. Ce qui vient est encore beaucoup plus grand et risquera d'ébranler beaucoup plus de gens qu'auparavant. Et c'est pour ça que le petit peuple de Dieu, ceux qui ont le privilège d'être appelés, d'avoir son Saint-Esprit et qui ont la responsabilité d'en vivre, peuvent passer à travers s'ils font les choses qu'ils doivent faire. S'ils s'accrochent à Dieu, s'ils s'accrochent à leur Créateur et Sauveur Jésus-Christ, notre grand frère, qui veut nous emmener à terme, qui va nous délivrer de toutes ces choses-là, si nous restons fidèles. Alors, voyez-vous, dans le temps qu'il nous reste, nous, il faut vraiment établir les bonnes priorités dans nos vies. Comme dit Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alors, voyez-vous, ça doit être la première chose dans ma vie. Donc, chaque jour, la priorité, c'est d'étudier sa parole et de le prier. Bien sûr, je dois m'occuper de gagner la vie, je dois m'occuper des choses physiques de ma vie, mais je dois organiser ma vie pour que ce ne soit pas mon travail qui me digère et qui m'éloigne de Dieu. S'il faut que je prenne des décisions par rapport à ça, il faut que je prenne les décisions en question, si je veux me rendre au bout. Et je dois mettre Dieu en premier, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et là, ça implique beaucoup, parce que il ne s'agit pas juste de savoir que le royaume de Dieu s'en vient. et d'avoir une espèce de sentiment de satisfaction intérieure en disant « je sais que le royaume s'en vient et que ça va libérer l'humanité ». Non, parce que si j'en reste là, que je ne vais pas plus loin, je n'y serai pas. Je ne pourrai pas passer à travers. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il y a un énorme « et » entre les deux. Il faut que ça aille ensemble. C'est-à-dire que oui, j'attends le royaume. Ça me réjouit, ça m'encourage. Mais en même temps, il faut que je cherche à vivre selon les lois de Dieu, à chercher la justice de Dieu. Et si je fais ça, je serai prêt à traverser, avec l'aide de Dieu, les tempêtes qui viennent et à être debout même devant le Christ lorsqu'il paraîtra. C'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que la Bible nous montre. Et écoutez, pour ceux d'entre nous qui sont dans l'Église déjà depuis un certain nombre d'années, on a vu des tempêtes. Il y en a eu. Et Dieu nous a permis de passer à travers. Parfois, ça a été plus difficile, parfois moins. Mais ça a toujours été très exigeant. Et en cours de route, il a fallu sacrifier des choses pour garder nos priorités. Et il va falloir que ça reste la même chose jusqu'à la fin. Se confier à Dieu. Et moi, j'aime ça. J'ai un passage dans la Bible qui m'encourage tellement quand je regarde le psaume 116 au début. Ça dit « J'aime Dieu car il entend mes prières, mes supplications. J'aime Dieu car il entend mes prières, mes supplications. C'est lui qui me délivre. C'est lui qui va me délivrer totalement et qui va vous délivrer. Si vous le priez, si vous le suppliez, si vous mettez les bonnes priorités, cherchez d'abord le royaume de Dieu, développez son caractère en mettant en pratique les lois qu'il nous a révélées. Des lois de bonheur dans le fond, qui peuvent rendre simplement notre vie plus agréable, plus positive, qui nous gardent à l'esprit les choses qu'il faut. Et ne pas laisser, dans le temps qu'il nous reste, les choses du monde envahir notre cerveau, les choses négatives ou les choses sales du monde ou les choses qui ne sont pas conformes à la beauté des choses de Dieu. Laissez ça à l'extérieur. Vous savez, Dieu nous a créés en tant qu'êtres humains libres et il faut exercer cette liberté-là avec l'aide de Dieu de bonne façon. Et le premier combat qu'on a amené, c'est de ne pas laisser entrer dans notre esprit les choses négatives, les choses contraires aux lois de Dieu. Parce que si nous les laissons entrer et que nous les entretenons, ça devient nous et ça nous éloigne de Dieu, veut pas. Et on devient faible à ce moment-là et on devient vulnérable. Et on peut devenir encore plus exposé au piège de Satan. Alors c'est pour ça qu'il faut livrer le bon combat au point de départ dans notre esprit et dans notre cœur. Ne pas laisser entrer les choses contraires aux lois de Dieu, contraire aux valeurs de Dieu qu'il nous a montrées dans sa parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je dois m'en nourrir chaque jour. Je dois parler à Dieu chaque jour. Et que le principal de ma vie maintenant, ce soit de mettre l'accent sur Dieu et sur le fait de développer son caractère. Oui, gagner ma vie dans ce qui n'est pas contraire aux lois de Dieu, mais d'une façon équilibrée, que ce soit pas mon travail professionnel qui prenne toute ma vie. Il faut que ça soit équilibré. Alors, voyez-vous, on a des décisions à prendre, mais on doit demander l'aide de Dieu. Parce que seul, on a énormément de misère à prendre les bonnes décisions régulièrement. On est exposé à tellement de choses. Et l'adversaire sait nos points faibles. Et soyez assurés que c'est là-dessus qu'il va travailler. Il sait qu'il vous a déjà eu sur tel point ou sur tel autre. Et il va ramener la même vieille recette qui a donné pour lui des bons résultats. Alors nous, sachant ça, il faut être sur nos gardes. Et puis dès que ça vient, dès que cette idée-là vient, changer d'idée, demander à Dieu son aide, penser à d'autres choses, changer d'endroit, faire ce qu'il faut pour ne pas laisser entrer ces choses-là. Parce que c'est comme une odeur qui entre en nous. C'est comme une atmosphère qui entre en nous, qui est contraire aux voies divines et qui nous affaiblit. Dieu nous a promis tout ce dont on a besoin pour être capable d'arriver au but. Comptons sur lui. C'est ce qu'il faut faire. Mais ce qui s'en vient est énorme. Et c'est pour ça que je vous donne aujourd'hui le message que je vous donne, pour qu'on sache d'avance les choses qui viennent et que ce ne soit pas une surprise quand ça arrivera. C'est en train de se préparer. Je vous ai donné des exemples tantôt de ce qui se passe sur la scène mondiale dans les pays israélites et même dans d'autres pays, mais dans les pays israélites en particulier où on rejette Dieu, où on rejette les valeurs bibliques, où on est prêt même à amener en cours ceux qui veulent mettre en pratique les lois de Dieu, où on n'accepte plus la vérité, où les gens veulent se tourner vers des fables et ne veulent plus entendre parler de ça. Alors, on est dans ce monde-là. Nous, il faut tenir ferme et se fortifier à l'intérieur de la tempête. Et c'est possible. Dieu a sorti les Israélites d'un pays d'esclavage où c'était impossible pour eux de sortir. Faut pas s'inquiéter de ce qui va nous arriver. Faut s'inquiéter, est-ce que je suis prêt? Si je suis prêt, Dieu va s'arranger pour que les bonnes choses m'arrivent au bon moment. C'est ça. Exactement. Ce sont des promesses que le Dieu de toute fidélité fait. Maintenant, en terminant, je vous ramène à l'article dont je vous ai parlé, l'article de M. Meredith. Aux portes d'une révolte gigantesque. Et je vous encourage vraiment à retrouver l'article en question et à prendre le temps de le lire. Ça va compléter ce que je vous montre aujourd'hui, puis ça va vous fortifier dans la foi, savoir ce qui s'en vient et savoir comment réagir face à ça et comment vous préparer. Alors, je vous cite maintenant le passage où il dit ceci. À la fin de la présente époque, la vaste majorité de l'humanité sera séduite. On parle de la vaste majorité de l'humanité sera séduite et entraînée dans une révolte sans précédent contre le Créateur de toutes choses. Alors, dans le fond, ce qui va se passer, c'est que Satan, qui a un jour essayé d'aller au trône de Dieu pour le renverser et prendre sa place, va agir par personne interposée, par le faux prophète et le grand empereur sur l'Europe unie bientôt. Par personne interposée, il va agir pour rejeter le Créateur, pour établir le mensonge universel. À la fin de la présente époque, la vaste majorité de l'humanité sera séduite et entraînée dans une révolte sans précédent contre le Créateur de toutes choses. Toutefois, il y aura un petit troupeau, et ce petit troupeau-là est mentionné dans Luc 12, verset 32, une toute petite église. On ne sera jamais une grande église. On sera une grande église après le retour de Christ, quand tous les êtres humains qui auront survécu à la Troisième Guerre mondiale et à la Grande Détresse seront appelés, pourront se convertir et pourront faire partie de l'Église. Là, l'Église deviendra de plus en plus grande sur la face de la terre. Toutefois, il y aura un petit troupeau qui suivra encore les instructions du Christ et des premiers apôtres. Parmi ces chrétiens qui garderont les commandements, certains seront protégés dans un lieu de refuge et échapperont au martyr qui frappera les autres. Ce groupe de gens est symbolisé par l'Église de Philadelphie, à laquelle le Christ déclare dans Apocalypse 3, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi, je te protégerai à l'heure de la tentation, ça c'est l'heure de la grande détresse, qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. » C'est à eux, M. Meredith continue, il dit ceci, c'est à eux que Dieu adresse cette promesse, qu'on trouve dans Apocalypse 12, verset 14. « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, à l'Église fidèle, ceux qui sont philadelphiens, afin que cette Église s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie, un temps, des temps et la moitié d'un temps, 3 années et demie, 42 mois de la grande détresse, où l'Église est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Ce groupe de chrétiens fidèles sera protégé sur la terre pendant 3 ans et demi, tandis que de terribles persécutions feront rage. Reportez-vous, s'il vous plaît, pour un dernier verset très encourageant. Dans Luc, chapitre 21. Alors, voyez-vous pourquoi c'est si important de comprendre ce qui s'en vient, la grande apostasie finale qui va très bientôt éclater complètement, qui est en préparation. Tout se prépare sur la face de la terre pour ça. À un moment donné, ça va éclater et ce sera là. Alors, c'est important qu'on sache d'avance, qu'on connaisse d'avance la venue de cette apostasie unique, énorme. Pourquoi? Pour ne pas penser comme certains que c'est quelque chose qui est passé, dont on n'a pas à se soucier, mais que c'est quelque chose qui vient, qui approche, Au contraire, ce n'est pas passé, mais c'est à venir. Et c'est à venir juste avant le retour de Christ, comme on a vu par plusieurs textes. Deuxièmement aussi, pourquoi est-ce que c'est si important qu'on réfléchisse à ça aujourd'hui, en ce beau sabbat que Dieu nous donne? C'est pour nous préparer. Nous préparer mentalement. Savoir ce qui vient, savoir ce qu'il nous faut faire pour rester proche de Dieu, pour s'approcher de Dieu et rester proche de lui, pour se préparer mentalement, pour se préparer émotionnellement aussi, pour pas qu'on soit bouleversé lorsque ça va arriver. On savait, on sait, et pour se préparer surtout spirituellement. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, comme c'est marqué? Dieu va nous amener à terme, à nous d'être fidèles. Regardez ce qui est mentionné dans Luc, chapitre 21 et le verset 36. D'ailleurs, commençons au verset 34. Ça vaut la peine parce que, à partir du verset 34, il nous dit ce qu'il faut éliminer de nos vies pour ne pas être encarcané là-dedans et pris avec ceux qui seront pris dans la grande détresse et ceux qui seront pris dans le grand mensonge qui vient ou ceux qui seront pris par le fait de ne pas être assez prêts pour être amenés au lieu de sécurité. Verset 34. Prenez garde à vous-même. Donc, faites attention. De crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Donc, les choses matérielles. Il ne faut pas que ça soit en premier dans notre vie. Et il ne faut pas que ce soit ça qui mène notre vie et qui dirige toutes nos émotions et nos pensées. Mais où? Cherchez premièrement le royaume et la justice. Ici, il dit, faites attention. Laissez pas vos cœurs s'appesantir dans les excès de manger et de boire, dans s'occuper prioritairement et principalement et de tout cœur des choses physiques et par les soucis de la vie. Les soucis de la vie, ils sont là, mais Dieu va nous aider à les traverser si on ne les met pas en premier dans notre vie. Si on met Dieu en premier, on vient toujours là. Si on met Dieu en premier, il sera avec nous et on passera à travers les soucis de la vie. Il dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne viennent sur vous à l'improviste, qu'ils ne vous surprennent. Et c'est pour ça que je vous donne le message aujourd'hui et que je l'absorbe moi-même. J'y ai réfléchi beaucoup et je dois y réfléchir encore parce que c'est notre préparation. Verset 35. Car ce jour viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Donc, ça va se passer rapidement à un moment donné. Là, les événements se préparent, mais à un moment donné, ça va éclater. Et quand ça va éclater, il faudra déjà être prêt. C'est pour ça que je vous donne le message d'aujourd'hui. Et regardez le verset 36, sur lequel je voulais surtout attirer votre attention en conclusion. Le Christ nous dit ceci. Veillez donc, veillez. Regardez ce qui se passe sur la scène mondiale. Surveillez ce qui se passe sur la scène mondiale. Mais surveillez l'état de votre cœur aussi, pour que vous soyez prêts. Veillez sur l'état de votre cœur, veillez sur les événements et soyez prêts. Veillez donc et priez en tout temps. Donc, restez en contact avec Dieu. Qu'il soit le premier, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Priez-le chaque jour, parlez avec lui, lisez chaque jour sa parole. Veillez donc et priez en tout temps. Pourquoi? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, parce qu'elles vont arriver, et de paraître debout, donc vivant, devant le Fils de l'homme. Voilà les paroles très encourageantes de la part du chef suprême de l'Église, notre grand frère Jésus-Christ, qui revient très bientôt.